Clara et Edouin, à partir de demain, nous allons découvrir votre adaptation picaresque de Que ma joie demeure, le roman de Jean Giono. Le roman débute à la fin de la nuit. Un fermier, Jourdan, qui se réveille et il va labourer. Et pendant qu'il laboure, eh bien, il croise une apparition. Et cette apparition va être un peu le moteur de ce roman. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on va attaquer le spectacle et la pérégrination à la tombée de la nuit au début du jour?
Oui, c'est en partie pour cette raison. Disons que pour des raisons en réalité pratiques, on commence très tôt pour éviter les grosses chaleurs de l'après-midi. Mais ces raisons pratiques permettent d'accomplir une sorte de rêve pour un metteur en scène, c'est-à-dire le rêve de coller avec l'histoire, quoi. Si on était plus radical, on commencerait à l'heure du roman, c'est-à-dire à 3h du matin ou à 4h du matin en pleine nuit. Ça aurait été techniquement un petit peu compliqué, mais commencer à l'aube, c'est en effet miraculeux pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'on voit le jour se lever, on voit le paysage et tous les vivants qui l'habitent se réveiller avec lui. Et de cette façon, on épouse quelque chose qui est propre à Giono et qui est une manière d'embrasser le vivant, de le faire parler, de lui donner une voix.
Le roman de Giono, en fait, c'est un conte qui raconte finalement le réveil d'une communauté à travers la modification d'un paysage. Est-ce que c'est cette utopie, ce conte, qui vous ont séduit au départ?
Oui, absolument. Il y a quelque chose de très simple dans l'histoire. Des gens habitent un plateau de moyenne montagne, ils sont absolument déprimés, et même plusieurs se suicident, on comprend que la tristesse habite ce plateau, et puis tout d'un coup, un étranger arrive et la vie change. Il y a quelque chose du théorème de Pasolini un petit peu dans ce texte, c'est-à-dire un étranger arrive et puis il va modifier chacun individuellement assez profondément. Là, ce que modifie cet étranger, qui est une sorte de poète, qui est peut-être un avatar de Giono lui-même, mais auquel Giono n'accorde pas un crédit absolu, c'est-à-dire que cet étranger, il est porteur de joie, mais il va être aussi porteur de désirs démentiels qui vont conduire certains personnages à la destruction aussi. Donc c'est un conte, mais ça n'est pas une fable si simple, ça n'est pas la fable écologique un peu béate du retour des oiseaux et du retour de la joie. C'est plus compliqué que ça. C'est le retour de quelque chose de très vivant en nous qui s'appelle le désir, qui s'appelle le désir de vivre, qui s'appelle le sentiment d'être en vie, le sentiment d'être vivant. Et ce sentiment-là, il est porteur de choses complexes en fait. Et il va être aussi porteur de mort, mais d'une mort qui fait partie de la vie.
Le roman de Giono, il a une structure assez simple finalement, c'est-à-dire qu'il y a des parties dialoguées, mais en même temps les dialogues sont extrêmement lapidaires, hein, puisqu'on a affaire quand même à des taiseux, et en plus ce sont des gens qui se connaissent depuis des années tout au moins, donc ils parlent à travers les silences. Et puis alors il y a ces descriptions de Giono, descriptions enfin, de la faune, de la flore. C'est presque un travail d'entomologiste quand on voit les termes qu'il utilise pour définir une plante ou un animal. Et puis il y a des moments de véritable épopée quand on va capturer des biches. Puis il y a ce repas dantesque où la viande se confond avec la chair. Est-ce qu'on va retrouver tout ça au fil des 10 tableaux?
Eh bien, j'ai tout fait pour. Mais je vois que vous avez une connaissance réelle.
Tout simplement lu le roman.
Bah oui, et vous l'avez bien lu parce que tout ce que vous décrivez est hyper juste. Et moi, c'est ce qui m'a donné. Enfin, ça a été des moteurs de désir de mise en scène, quoi. En effet, cette immense scène du repas, presque homérique dans la manière dont sont décrits toutes les plantes et les animaux mangés, quoi. Et comme si, là, dans cette scène, ce qui est très beau et qui est aussi très actuel dans les débats que ça soulève. On voit des êtres humains, des êtres vivants qui doivent manger la vie d'autres êtres vivants. Et c'est cette circulation-là qui est mise en scène. C'est cette espèce de tourbillon de la chair, quoi, qui est mis en scène. Et nous, qu'on traduit dans une scène assez virevoltante, enfin, qu'on essaye de jouer de façon assez virevoltante, où aussi tous les personnages se rencontrent, se retrouvent. Et comme on n'est que 6 acteurs à jouer toute cette communauté, il y a beaucoup de changements de costumes, etc., qui se font à vue dans la scène et qui participent de la dimension tourbillonesque, quoi, de cette scène-là. Et il y a aussi, comme vous dites, l'épopée des biches où les chasseurs et les proies se confondent et où donc là aussi il y a des effets de costume qui visent à ce mélange entre l'homme et l'animal, entre l'homme pisteur et l'animal chassé, etc. De la même façon qu'il y a des immenses descriptions, comme vous dites, d'entomologistes qu'on essaye aussi de mettre en scène via des acteurs qui changent de statut, qui à ce moment-là ne sont pas seulement des personnages, mais qui deviennent comme des descripteurs, des narrateurs, des porteurs de récits, des porteurs de voix. Et donc les acteurs sont ces deux choses-là dans le spectacle. Ils vont être à la fois des personnages très caractérisés, mais avec des changements de costume un peu permanents, et ils vont être aussi des narrateurs. Ils vont être aussi, ouais, les voix du texte.
Alors il y a quand même une gageure, puisque demain ça va débuter donc vers 6h moins le quart. Et le roman, en fait, il suit le cycle des saisons. Et donc, on va se retrouver en hiver, alors qu'il fait très chaud autour de nous. Vous allez me dire, vous n'avez qu'à venir, mais comment on se retrouve face à ce défi ?
Eh bien, c'est le défi du théâtre, c'est de faire exister des choses qu'on ne voit pas, de faire sentir des émotions invisibles et qui ne correspondent pas au moment présent. C'est de faire advenir dans le présent tout ce qu'on peut imaginer, convoquer par la parole. Donc, ça va reposer sur les épaules des acteurs, puisque c'est eux qui vont proclamer l'hiver, qui vont proclamer le printemps, qui vont proclamer, parfois déclamer ou annoncer le grand Angèle, alors qu'on est en plein été et tout va se passer dans l'imagination du spectateur.
On pourrait penser que c'est un roman et une fable qui est, je dirais, totalement utopique, totalement optimiste et tout, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le personnage d'Aurore, par exemple, c'est quelqu'un qui se flétrit au fur et à mesure que tout resplendit.
Absolument, le personnage de Bobby n'est pas celui qui ramène juste une joie béate sur le plateau. Il ramène des désirs. Et dans ces désirs, il y a parfois une sensualité qui déborde, qui dépasse les personnages. Et on sent que Aurore, alors c'est un personnage, nous c'est un personnage parmi d'autres. Je sais que ce n'est pas toujours forcément évident pour les spectateurs de focaliser sur un seul de ces personnages. Le spectateur de ce spectacle, il va plutôt avoir affaire à une communauté et il va la voir évoluer. Mais à l'intérieur, si on est attentif, oui, il y a ce personnage mystérieux d'Aurore, de la jeune fille qui est toujours à cheval, qui est toujours en train de courir, etc. Et qui passe, qui est juste une passante un peu fantomatique et qui va finir par mourir. Et cette mort, elle est un mystère, elle reste un mystère, même à la lecture du roman comme là dans le spectacle. C'est quelque chose qu'on n'explique pas. On sent juste qu'elle est traversée par des émotions, par des flux d'énergie, par des flux de désir et d'amour qui la dépassent, avec lesquels elle n'arrive pas à vivre tout simplement. Et donc le retour de la vie que ramène Bobby sur le plateau, il passe aussi par cette mort-là. Mais pour autant, moi je crois, et je pense que le dernier texte qui est lu par les acteurs à la fin du spectacle, en témoigne, la mort n'empêche pas la vie. La mort est une partie. La mort, c'est un moment de l'existence, c'est un moment de la vie, si on prend la vie en un sens plus profond. C'est la vie et cette chose qui circule des êtres aux autres êtres. Enfin, la mort des uns fait la vie des autres. C'est un proverbe d'Héraclite et qui se révèle juste à la lecture de ce livre et j'espère dans ce spectacle.
Comme à Joie de Mer, est-ce qu'on retrouve la troupe des Trois Mousquetaires ? Parce que les Trois Mousquetaires, ça galope, ça ferraille. Là, dans Comme à Joie de Mer, on est plutôt dans l'introspection et la contemplation.
Alors oui, et justement, ça n'est pas la même troupe d'acteurs, aussi pour des raisons pratiques, c'est-à-dire qu'il aurait fallu arrêter de tourner Les Mousquetaires pour jouer Comme à Joie de Mer, puisque c'est deux spectacles d'extérieur qui occupent à peu près les mêmes créneaux dans les saisons théâtrales, quoi, c'est-à-dire le printemps, l'automne. Donc là, souvent, pendant qu'on joue Comme à Joie de Mer, Les Mousquetaires jouent ailleurs, et donc il fallait d'autres acteurs. Et puis aussi, en effet, c'est pas du tout la même énergie à mettre en place. D'ailleurs, moi-même, des fois, je dois lutter contre mes tendances à l'épopée, au romanesque, à l'action, aux événements rebondissants, et à ce muscle-là de l'acteur, à cette énergie déployée sur le plateau, qui a été mise en place dans Les Mousquetaires de façon évidente, parce que Dumas correspond tout à fait à cette espèce d'énergie théâtrale et cette énergie de jeu. Et là, dans Giono, il fallait mettre en place d'autres types d'émotions, une énergie beaucoup plus profonde, beaucoup plus sourde. C'est un spectacle à diffusion lente, comme m'a dit une amie qui est venue voir un filage. Et du coup, il faut résister parfois à notre envie de faire de l'action. En fait, ça ne passe pas par les mêmes choses. Il faut pouvoir emmener le spectateur par la main dans quelque chose de beaucoup plus doux, de plus lent aussi, et faire confiance dans le fait qu'il va quand même se passer quelque chose pour les spectateurs, même si on n'est pas en train de courir partout. Et donc moi, c'est un effort que je dois faire, mais je dois résister contre mon énergie propre pour mieux accueillir des émotions nouvelles, un peu inconnues, plus subtil aussi. Et avec les acteurs, on essaye de faire en sorte que ces choses-là puissent arriver aux spectateurs.
Une dernière question, Clara Edouin. Moi, dans le roman, il y a un personnage que j'adore, c'est le cerf. Parce que le cerf, d'abord, un jour, il arrive, il est là, puis bon, il se sent bien, il reste là, il traîne. Après, il est content parce qu'on lui apporte des biches. Est-ce qu'il y aura un cerf dans le spectacle ?
Eh bien, vous verrez. Il y a un cerf dans le spectacle, mais en même temps, il n'y a pas de cerf dans le spectacle. Je vous laisse avec ça.